L'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Le français du XVIIe siècle.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien, mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font. Ou bien me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d'amour.
L'insécurité est partout, même dans la langue. Souvent, nous repérons des constructions de phrases qui, regardant dans plusieurs directions à la fois, nous paraissent donc louches. Et nous voyons des mots bas, comme disait en 1647 Vaugelas. Comme nous ne trouvons pas aujourd'hui la netteté tant désirée, nous supposons qu'elle a pu exister au XVIIe siècle. À l'aube de la période, Malherbe était venue, et en 1694, l'Académie avait publié la première édition de son dictionnaire. La langue du roi était-elle pour autant une et indivisible? Non, évidemment. Le buissonnement des parlers dialectaux était touffu. L'ombre du latin toujours forte, notamment sur l'orthographe qui étant l'affaire des maîtres d'écriture et des imprimeurs, restait d'ailleurs très libre. Elle ne préoccupait guère les théoriciens. Ceux-ci avaient assez à faire avec l'inventaire des mots et la grammaire, un lieu fort instable aussi. Comment établir une syntaxe propre au français? Nous imaginons que les contemporains du XVIIe siècle avaient su stabiliser les questions que nous nous posons. Ils avaient au contraire conscience d'être au début du 13e des travaux d'Hercule, dont nous-mêmes ne verrons pas la fin.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Alors s'il est quelqu'un que nous adorons, je reprends Alain Rey, bonjour.
Bonjour.
Le vocabulaire de Claire Servajean. Nous savons aussi qu'il est un homme des travaux d'Hercule. Je ne vous fais pas dire ce à quoi vous travaillez le nez dans le guidon. 10 heures par jour, mais le résultat viendra au printemps prochain, si Dieu le veut, et ce sera impressionnant. On a l'impression que vous êtes une sorte d'Atlante. C'est pas évident à vous voir physiquement, qui soutient un monde mouvant. C'est ça le lexicographe.
Oui, oui, c'est aussi une sorte d'explorateur qui se promène dans des jungles qui sont pires que celles de Calais, je dois dire, et où on ne sait pas qui on va rencontrer, parce que la langue française est un... non seulement c'est buissonnant, mais c'est une forêt profonde dans laquelle on se perd volontiers.
Alors justement, diversité broussailleuse et spontanée des parlers dialectaux, vous avez noté que j'utilise les mots convenables, c'est ça qui caractérise le XVIIe siècle jusqu'à la cour.
Absolument,
où on gasconne, oui. Et où on béarnise au début du siècle.
Naturellement, et c'est tout à fait normal, puisque même le pouvoir central, je pense à Henri IV naturellement, n'a pas comme langue essentielle et première le français du roi, tel que va essayer de le mettre en selle Louis XIV, avec une politique de centralisation et d'unification qui en fait l'ancêtre premier des Jacobins, ce qui est assez paradoxal, mais c'est tout de même un peu vrai.
Racine, pensionné par Louis XIV, dira plus tard, donc dans le siècle, « À Lyon, je commence à ne plus être intelligible, et à Valence, quand je demande un pot de chambre dans une auberge, on me donne un réchaud. »
Absolument, ça c'est ça, dans son voyage, il allait en Provence. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Racine s'est débrouillé, il a fini par avoir son pot de chambre, et vous savez comment, en parlant italien.
Alors ces anciens dialectes qui sont souvent, par exemple, je parle de la langue occitane particulièrement vivant au début du siècle, peuvent être peu à peu dévalorisés, bien sûr, aux yeux des élites nobiliaires et bourgeoises, d'autant que les écoles royales incitent, nous sommes ici chez Madame de Maintenon, à Saint-Cyr, c'est un extrait d'un film de Patricia Mazui.
Je veux vous connaître toutes, mademoiselle. Vous allez vous présenter. Mademoiselle, quel est votre nom?
Marthe d'Absolu de Gabastou. Hilde de Renoterezo de Montané de Yann d'Absolu de Gabastou. Hilde Lou d'Absolu de Gabastou. Hilde Rena d'Absolu qui est épouse d'Adarno de Gabastou. Médige d'Arno d'Absolu et Médige de Bernatou d'Absolu. continue de Tsawa de Luisande, filio de Danoman aussi la Moutunaria, noué les cendres de Tsawa de Luisande, garçon des Tousés de Luisande, qui est mari des Dames de Tsawa, mais ce garçon des Jean-Baptiste de Luisande. L'œil de Tsawa de Luisande, mes frères, il y a trop peu d'oreilles, voici trop beau, point d'Alsace.
Catherine de Gasquet d'Agu, fille de Don Anne de Clermont de Sabra et de Lysandre de Gasquet d'Agu. Fille de José d'Agu, qui s'est légué à donner des Gasquets, et en même fille de Jean-Baptiste d'Agu. Oui, de Gasquet d'Agu, mon frère, mon regret des amas de d'oreilles, un de Strasbourg, point d'Alsace.
Bientôt vous parlerez toutes la même langue. Il n'y aura plus de différence entre vous. À présent, vous êtes toutes de la même maison, de la même province et du même royaume. Et vous êtes toutes des filles du roi.
La langue du roi. Depuis quand cette expression est-elle utilisée? Comment s'est-elle développée peu à peu à l'arrêt?
Bien, elle aurait pu commencer avec François Ier, mais je pense pas que ce soit le cas. Mais déjà, la chose était claire. Il s'agissait pour le pouvoir central, c'est-à-dire pour le roi, d'installer une langue qui, administrativement, au moins juridiquement, soit la même pour tout le royaume. Donc, c'était en fait le saut du pouvoir central sur les différentes régions qui avaient gardé une autonomie complète au point de vue culturel et naturellement au point de vue linguistique aussi, parce que on parle beaucoup des dialectes et c'est nécessaire. Il faut rappeler qu'il y a trois familles de dialectes à l'époque en France, qui sont encore très vivantes, parce que les patois occitans, dialectes, faut-il dire, sont évidemment très vivants, et certains sont constitués quasiment en langue autonome, comme le gascon, qui va avoir beaucoup d'influence d'ailleurs, même à la cour, et la lutte contre le gascon, la dégasconisation, si on peut dire, a été très très violente à la fin du siècle. Et il y a aussi, naturellement, à cause de Henri IV, dont la langue maternelle n'était pas le français, le béarnais, que certains aujourd'hui voudraient voir reconnu comme une langue à part entière à côté du gascon. Et puis il y a les langues qui étaient vraiment des langues d'une autre nature. Par exemple, ceux qui pouvaient encore se parler d'ancien lorrain, le francique, le bas francique, qui était encore vivant et qui l'est encore d'ailleurs en Lorraine, naturellement le breton, naturellement un peu de flamand du côté du nord-est vers Dunkerque, et ainsi de suite. Et c'est vrai que l'augmentation du pouvoir central du roi aux dépens des féodaux a été un des facteurs premiers de l'unification de la parole. Et la référence au roi montre bien que la parole est juridiquement et politiquement majeure dans cette affaire.
Alors Malherbe, les académiciens, l'Académie française prend forme à partir de 1634. Vaugelas, qui était académicien, avec son livre « Remarques sur la langue française » de 1647. Tout ce courant insiste sur la concordance qui doit se produire entre la langue et la volonté unificatrice du pouvoir, avec une distinction entre les mots. Certains disent qu'on va mettre les mots dans des castes.
Oui, absolument, parce que pas seulement les mots d'ailleurs, la manière de s'en servir, puisque c'est une époque, et même pour les arts plastiques, où les niveaux d'intervention et de création sont hiérarchisés en couches superposées. Il y a le sublime en haut, et puis en bas, il y a le bas. Et bas n'est pas forcément une condamnation sociale, c'est simplement la reconnaissance d'un certain niveau d'expression qui est parfaitement perçu et qui va par exemple être le cas des œuvres du passé qui sont conservées, qui sont très peu nombreuses. Vous savez, quand on regarde qu'est-ce qui se publiait d'ancien au XVIIe siècle, il y a trois noms qui surviennent, c'est Rabelais, Villon et Marot.
Alors les mots bas peuvent être des mots vieillis.
Donc les mots bas peuvent être des mots vieillis ou des mots qui sont sentis comme des gasconismes ou comme des...
Par exemple, des barguigné. Mots moi j'aime bien barguigné, ben, c'est considéré comme un mot bas par Vaugelas.
C'est un mot bas parce que de toute façon la langue du XVIe siècle brassait tous les niveaux d'usage, et naturellement le grand créateur qui a su se servir de ça pour faire une œuvre qui est comparable à celle de Joyce au XXe siècle, c'est Rabelais. Rabelais n'hésite pas à employer des mots latins, des mots grecs, des mots arabes, des mots vulgaires, des mots bas et des mots nobles. Il introduit le mot encyclopédie, il introduit une quantité de mots, et quand on date l'apparition des mots en français, les dates des différents livres, Pantagruel, Gargantua d'abord, et puis le tiers livre surtout, qui est un lieu de création considérable, sont des sortes de témoins justement d'une créativité absolue. Et ça va être un peu démoli. Je pense qu'on exagère beaucoup le rôle de Malherbe, et c'est un peu la faute de quelqu'un qui a su formuler les choses avec force et on s'en est souvenu, c'est Boileau.
Enfin, Malherbe,
enfin, etc.
Donc c'est un courant construit, cohérent, de codification de la langue. En même temps, vous expliquez à Alain Rey que l'orthographe reste relativement libre, comme si elle était dévolue aux praticiens, aux maîtres d'écriture dans les écoles, aux imprimeurs qui doivent respecter des codes typographiques, et que les théoriciens du dictionnaire ou de la grammaire n'avaient pas le temps de s'en occuper.
Ils considéraient ça comme une chose assez secondaire, et c'est vrai que le respect d'une orthographe unique et entièrement contrôlé, ça sentait son pédant. On voit ça, par exemple, dans les mémoires de Perrault, le grand Perrault, qui est un des prosateurs les plus purs de cette époque, avec ses contes qu'il n'a pas inventé, mais auquel il a donné une forme un peu durable, de même que La Fontaine, par sa manière de brasser un français un peu vieillot et un français moderne, a su dans les fables nous alimenter de locutions qui sont devenues le bien de tous. Ça,
oui,
c'est
mais
assez rare.
Tout de même, il était de bon ton dans l'orthographe de savoir marquer l'origine latine des mots, parce que le latin reculait, on ne composait plus la phrase en fonction du latin. Le discours de la méthode, c'est une rupture par rapport aux méditations
absolument
de Descartes. Mais que doit s'écrire avec un G? Ça voulait dire que ça vient de digitum. Que fait s'écrire avec un C, F-A-I, C-T? Ça voulait dire qu'on savait son factum, ainsi
de suite. Et la facture, etc.
Oui.
Mais c'est vrai que ces rappels étymologiques à l'intérieur de l'écriture, on la vit dure, parce que dans les minces réformettes, qui sont plutôt des adaptations qu'on tente de faire aujourd'hui à l'écriture en français, on ne touche pas à l'écriture étymologique. Et on n'y touche même pas quand elle est fausse, parce que vous le disiez tout à l'heure, on rajoute par exemple la lettre P au mot dompter et dompteur, qu'il ne faut pas la prononcer. Pourquoi ne faut-il pas la prononcer? Pour des raisons étymologiques aussi, parce que ça vient du latin domitare, il n'y a jamais eu de P dans le latin, et on l'a mis pour faire joli.
Tandis que compteur, ça mérite le P.
Compteur, c'était parfaitement correct, c'est computare, et ça associe la computation, le comptable, et un certain nombre de mots apparentés. Donc c'est vrai que c'est aussi une leçon d'étymologie, et cette leçon d'étymologie est précieuse. On le voit bien actuellement, quand on veut noter phonétiquement les créoles, si on les note à la française, ils gardent l'étymologie des mots français. Si on veut les noter phonétiquement, on les détache plus profondément de leur source lexicale qui est le français.
Les précieuses, qu'on imagine toujours dans la recherche du rare, se plaignaient d'ailleurs de ce caractère trop étymologique de l'orthographe, parce que les femmes, expliquait-elle, n'avaient pas le droit suffisant à l'enseignement du latin. Des précieuses, on va passer au monde moliéresque, si vous le permettez. Ici, c'est le petit opéra impromptu du malade imaginaire de Molière, avec l'ensemble Les Arts Florissants de William Christie, dont je signale qu'à partir du mois d'avril, le Centre National du Costume de Scène de Moulins présente une sélection de costumes.
Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Repose, dur silence, et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre, faut-il mourir?
Vous me voyez, Tircis, triste et mélancolique, aux apprêts.
Je vous regarde, je soupire. belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircise eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur?
Je ne m'en défends point, et dans cette peine extrême, oui, Tircis, je vous aime.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Journée de la langue française, nous suivons dans les buissons du français du XVIIe siècle, Alain Rey. Qui pourrait nous dire, je n'avais pas pensé à ça, vous m'expliquez ça dans la préparation de l'émission, que les musiciens, les baroqueux, l'exposition de William Christian Moulin, baroquissimo, ils ont été parmi ceux qui ont attiré l'attention sur les questions de prononciation.
Alors, ils ne veulent pas restituer la prononciation exacte du parler de l'époque, mais ils veulent mettre en accord la musique des mots avec la musique tout court qui l'accompagne. Et là, je pense que la restitution est très très modeste, parce que à part les R roulés, puisque le R que nous prononçons tous les deux actuellement est récent, il date du début du 19e siècle, et non seulement ce R non roulé, qu'on dit grasseillé, et que nous employons spontanément dans le français contemporain, n'est pas une chose très ancienne, mais en plus c'était considéré au départ comme quelque chose de très vulgaire, de très bas, par rapport à propre aux ouvriers, au prolétariat parisien, et pas du tout à la noblesse qui parlait comme parlait Colette encore au XXe siècle, c'est-à-dire avec un accent qu'on considérait comme bourguignon. Donc ce R roulé, c'est vrai, il est présent, mais j'ai entendu qu'il y avait un endroit où on prononçait moi. Or, au XVIIe siècle, on prononçait moué. On prononçait pas moi, on disait le roué. Et on a dit le roué jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, je vous propose qu'on aille plus loin dans la restitution dans un instant. On peut s'arrêter quand même sur Molière pendant quelques secondes. Molière, il était extrêmement sensible aux variations sociales qu'indiquait l'accentuation et la prononciation. Dandin, dans Georges Dandin, il est le gendre de hobereaux provinciaux de Normandie, les Sautenville. On lui intime de se taire, quoi, parce que je sais pas comment il dit, Jon, Javon.
Oui, c'est ça. Il a ses prononciations et ses mauvaises conjugaisons des verbes qui étaient attribuées de manière généreuse à toute la paysannerie française, quelle que soit d'ailleurs son origine. Mais c'est vrai que Molière fait partie de cette famille d'écrivains qui est extrêmement sensible au langage oral et qui sait l'écouter et qui sait l'entendre. Molière, au XVIIe siècle, c'est l'équivalent de Proust au début du XXe siècle, comme écoute, c'est une oreille extrêmement sensible. Et en même temps, il peut faire preuve de purisme quand il s'en prend aux précieuses, par exemple, mais c'est un purisme de la rhétorique et de l'esthétique, ce n'est pas un purisme social.
Elle disait Barnabé ou elle disait Bernabé?
Elle prononçait, je pense, le ber, parce que le A de bar était en général prononcé ber. Mais c'est une impression, parce que comme il n'y a pas de magnétophone à l'époque, nous ne savons pas vraiment comment les différences de prononciation, qui étaient considérables jusqu'au point qu'on ne se comprenait plus, parce que il faut bien imaginer que la situation était comparable à celle qui est, par exemple, celle des pays où il y a deux langues, un créole français et le français. Il y a tout un intermédiaire entre les deux. Il y avait des Occitans qui parlaient gascon, mais qui gasconisaient en français, avec un français qui était tellement chargé de prononciation locale que pour un français d'une autre région, il devenait incompréhensible.
Reste la question que nous posait un auditeur. Comment parlait-on, par exemple, devant le roué, le roi? Alors, un exercice par Eugene Green, le cinéaste, homme de théâtre d'origine américaine. Il n'aime pas qu'on dise qu'il est d'origine américaine. Un sermon de l'aigle de Meaux de l'évêque Bossuet.
Ô Dieu! Encore une fois, qu'est-ce que de nous? Si je jette la vue devant moi, quel espace infini où je ne suis pas? Si je la retourne en arrière, quelle suite effroyable où je ne suis plus, et que j'occupe peu de place dans cet abîme immense du temps. je ne suis rien. Un si petit intervalle n'est pas capable de me distinguer du néant. On ne m'a envoyé que pour faire nombre. Encore n'avait-on que faire de moi. Et la pièce n'aurait pas été moins jouée quand je serais demeuré derrière le théâtre.
Alors, est-ce que ça fournit une bonne nourriture, ou nourriture, je ne sais pas comment on dit, pour votre argumentation, à l'arrêt?
Ben, je crois que là, c'est un petit peu trop, quoi. Parce que, d'abord, l'ennui, c'est que, sur le plan esthétique global, ça fait rire ou sourire, alors que c'est pas du tout l'intention du texte. C'est un petit peu comme une traduction. La fidélité à la prononciation de l'époque, qui n'est pas garantie, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des prononciations des consonnes finales, moins, plus, etc., qui sont excessives parce qu'elles étaient déjà perdues à la fin du Moyen-Âge. Donc je crois que là, le fait de prononcer toutes les lettres des mots, c'est valable au XIIe siècle, ça l'est beaucoup moins au XVIIe, mais encore une fois, on n'y était pas, donc on ne va pas critiquer la reconstitution. Simplement, on peut considérer que l'effet global, il faut quand même respecter plus la musique intérieur et extérieur que donnent les grandes périodes de Bossuet, et c'est sur le plan de la syntaxe plutôt et de la rhétorique qu'il faudrait travailler plutôt que sur celle de la prononciation des phonèmes isolés.
Et sur la structure, alors je propose un autre exercice. Si la restitution excessive, selon vous, nous éloigne du texte, le respect de la structure, on va prendre l'exemple de l'alexandrin classique, peut le rendre extrêmement moderne. Un spectacle au théâtre de la Contrescarpe à Paris, Anne Delbé, élève d'Antoine Vitesse, dit « C'est la structure qui donne le sens. Chaque vers est en soi un monde. Chaque vers doit être suivi pas à pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mystiches numéro 1 se glissent dans les mystiches numéro 2. Et avec un vers, vous faites votre journée. » Explication par le maître, par Antoine Vitesse, à partir d'Andromaque.
Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu trancher les jours de ma famille entière et mon époux sanglant traîné sur la poussière.
Vous avez entendu que les vers sont ici comme dessinés dans l'air, c'est-à-dire nous avons tenu à ce que les vers soient dits un par un. Nous avons tenu à ce qu'il y ait le moins possible d'enjambement, c'est-à-dire à ce que, le moins possible, le texte de Racine apparaisse comme un texte prosaïque, à ce qu'autant que possible, on entende la structure du vers alexandrin. Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez. J'ai vu mon père mort et nos murs embrasés. J'ai vu trancher les jours de ma famille entière et mon époux sanglant traîné sur la poussière. Nous avons ici quatre vers qui ont tous un sens, qui tous font vers, où à la fois la continuité prosaïque a un sens et les vers, un par un, ont un sens aussi. Mais tous, pas seulement un sur deux ou un sur quatre. C'est pour ça qu'on éprouve une espèce de volupté poétique particulière, volupté qui naît de la plénitude, enfin de la densité poétique du texte.
Et de son intemporalité, Anne Delbé, à la Contrescarpe, peut chanter un alexandrin avec cette méthode respectueuse sur un air de blues.
Oui, parce que justement, l'écrivain, à l'époque, fait en sorte, comme le souligne très bien Vitesse, de fabriquer une œuvre d'art chaque fois qu'il produit un alexandrin. C'est-à-dire que c'est une unité musicale et c'est en même temps une unité syntaxique. Or, ça va éclater à la fin du XVIIIe siècle avec le pré-romantisme, et avec le romantisme, le contre-exemple absolu de Racine, c'est Hugo. On ne peut plus faire ça avec Hugo, c'est absolument impossible, parce que précisément, il fait dominer la grammaire sur la rhétorique de l'alexandrin. Il en a une autre, et une autre qui est aussi grande, mais qui n'est pas avec les mêmes unités. Et je pense que cette intrusion de la complémentarité entre le vers isolé, l'alexandrin en l'occurrence, et puis la phrase que soulignait Vitesse, on va le voir apparaître et se durcir, précisément avec Malherbe et avec Corneille. Parce que si on a un souvenir très très précis, la majorité des Français qui sont allés à l'école, quand ils entendent le site de Corneille, ont en mémoire un grand nombre de vers, c'est justement à cause de cette assomption de l'Alexandrin en termes d'œuvre d'art, indépendamment de son message logique. Et c'est d'avoir les deux à la fois qui constitue cette espèce d'apogée qu'on va trouver avec plus de souplesse et moins de certitude et d'assurance chez quelqu'un comme La Fontaine, qui justement n'adore pas l'Alexandrin et qui s'occupe d'une poésie qui est plus fluide et où la phrase avec des formules n'est pas forcément analogue à la structure du vers, à la structure métrique du vers. Donc là, il y a évidemment un moment de la poésie française qui, au début, avec Corneille, Malherbe, puis avec Racine, va atteindre à des sommets à la fois esthétiques et, on dira, intellectuels, parce qu'il y a aussi un message intellectuel, mais qui va se dégrader au XVIIIe siècle, parce que c'est la partie formelle qui va triompher, et on arrive dans les tragédies de Voltaire, qui malheureusement sont loin d'être au niveau de sa prose.
Le XVIIIe siècle, elle est d'un mot pour finir, Alain Rey, c'est pour vous le grand siècle de la langue française, peut-être, s'il faut en trouver un, sauf pour la poésie.
Écoutez, j'ai beaucoup de mal, parce que pour moi, le premier grand siècle de la langue française, qui nous donne trois auteurs qui, à eux trois, et je vous laisse le soin de les deviner, sont l'équivalent de Shakespeare pour l'Angleterre ou de Cervantes pour l'Espagne, c'est le 16e. C'est-à-dire que Ronsard, Rabelais et Montaigne, à tous trois, font quelque chose qui constitue, qui suffit à constituer une littérature et une très grande littérature. Le 17e, je l'adore, et il y a deux 17e, il y a celui dont nous venons de parler et celui qui le précède entre 1600 et 1660-70, qui est le 17e siècle baroque, avec des poètes merveilleux comme Saint-Amand, des prosateurs admirables et cocasses comme Sorel, et tout ça, ça fait un ensemble qui est magnifique. Évidemment, le 18e, on a Rousseau et on a le début du romantisme, donc on peut pas, et la grandeur justement de la littérature française, c'est qu'il est impossible de lui donner un siècle de référence.
Merci infiniment à vous, Alain Rey. Il est impossible de donner le titre de tous vos ouvrages récents. Je signalerai, parce que notre thème demain, c'est les bidonvilles, un livre inattendu chez Trédaniel qui s'appelle « Parler des camps » ou un autre Alain Rey. Se révèle. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Fabrice Desmaz. La préparation Franck Oliva, Frédéric Martin, Marion Philippe et Ilinka Negulesco.